Yves-Marie Congar naît le 8 avril 1904 à Sedan, dans les Ardennes françaises. Il vivra là la Première Guerre mondiale. En 1925, il entre au noviciat des Dominicains. Ordonné prêtre 5 ans plus tard, il s'intéressera à l'ecclésiologie, sa thèse de lectorat portant sur l'unité de l'Église. Il sera également à l'origine de la collection Unam Sanctam, dont le premier volume sera son ouvrage « Chrétiens désunis ». Prisonnier durant la Seconde Guerre mondiale, il poursuit sa recherche dès son retour de la guerre, tout en continuant à enseigner au Saulchoir. Étienne Fouilloux, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université Lumière de Lyon, a bien connu le père Congar. Il revient pour nous sur l'itinéraire du Dominicain et sur sa conception de l'Église.
Dans sa vocation ecclésiologique et œcuménique, il y avait la volonté de présenter l'Église autrement qu'elle n'était présentée dans les manuels, dans les catéchismes de la période antérieure, c'est-à-dire de sortir de la présentation de type Saint-Robert Bellarmin au XVIIe siècle ou du Concile de Trente, de l'Église essentiellement comme une société inégalitaire et hiérarchique, comme disait Bellarmin, et de la présenter beaucoup plus comme un peuple en marche, une communion, un mystère, etc. Et donc, il a travaillé dans ce sens-là.
À cette époque, donc, le père Congar expose les résultats de ses recherches sur l'Église à travers de nombreuses publications.
Il y a notamment deux livres qui ont marqué deux grosses briques. C'est du Congar, bourré de matière, bourré de citations, bourré de références en bas de page. « Vraie et fausse réforme dans l'Église en 1950 ». Alors parler de réforme dans l'Église catholique en 1950, même avec un petit R et pas avec un grand R, c'était déjà un peu risqué, enfin la fin du pontificat de Pie XII. Et puis un deuxième livre en 1953, Jalon pour une théologie du laïcat, où il essayait de redonner une place plus importante aux laïcs par rapport à la structure hiérarchique de l'Église. Donc dans les deux cas, réforme et laïcat, par rapport à la théologie dominante, à la théologie romaine, avait un différent important. Ces thèses n'ont pas été formellement condamnées. Il a été interrogé par le Saint-Office en 1954, mais il a été retiré de l'enseignement, il a été exilé, entre guillemets, à Cambridge et ensuite à Strasbourg. Il y a eu, non pas des sanctions formelles, mais néanmoins très fortes mesures punitives contre lui, l'empêchant de développer ses thèses.
Avec le Concile Vatican II que le pape Jean XXIII convoque, une période nouvelle s'ouvre pour le père Congar, qui, dès 1960, sera nommé expert à la commission doctrinale préparatoire du Concile. Même s'il y est minoritaire par rapport aux théologiens romains qui avaient contribué à sa mise à l'écart, c'est une véritable réhabilitation pour le théologien dominicain et pour ses thèses.
La première session du Concile, en 1962, un certain nombre de textes de cette commission théologique préparatoire ont été refusés par une majorité d'évêques, et notamment le schéma sur l'Église, qui n'a pas été véritablement discuté. Et à partir de ce moment-là, c'est-à-dire à partir du mois de mars 1963, il a fait partie du petit groupe, essentiellement avec des Belges, avec Mgr Philips, avec Mgr Tils et quelques autres, qui ont refait un schéma sur l'Église. Congar passe du rôle d'expert un peu minoritaire au rôle de l'un des principaux experts de la majorité conciliaire sur le domaine, dans les domaines de l'ecclésiologie. Et donc, il a pu faire passer, pas directement, pas complètement, mais quand même un certain nombre d'éléments qui inspiraient sa recherche antérieure. Notamment, il a travaillé sur les deux premiers chapitres de la Constitution Lumen Gentium. Le premier chapitre, l'Église comme mystère, qui était une thèse majeure qu'il développait depuis longtemps. Et le chapitre 2, sur le peuple de Dieu, il a été un de ceux, d'une manière très précise, qui a contribué à inverser l'ordre des chapitres, puisque initialement, le chapitre 2, c'était la constitution hiérarchique de l'Église. Il a contribué avec d'autres à mettre le peuple de Dieu au chapitre 2 avant la constitution hiérarchique de l'Église, ce qui au moins symboliquement représentait un changement assez appréciable.
De ce fait, c'est un véritable travail de discussion qu'a réalisé le père Congar, principalement en triant des amendements et en essayant de les inclure dans les textes pour que ceux-ci restent cohérents et fassent droit à toutes les idées.
C'était à la fois un homme de doctrine, enfin il tenait fortement à ses thèses, mais c'était aussi un homme de dialogue. qui étaient persuadés que c'était un concile des évêques et pas le concile des théologiens, même si les théologiens ont joué un rôle important, et que, par définition, les textes conciliaires étaient des textes de compromis où il fallait trouver la meilleure formulation acceptable par le plus grand nombre. Et il me semble que Congar s'est plié à ce jeu de va-et-vient à l'intérieur des commissions, entre les idées différentes.
Par ce travail, et malgré la maladie qui déjà s'abattait sur lui, le père Congar s'est mis au service des évêques de multiples manières.
Il a ou bien suggéré à certains évêques français ou autres d'intervenir sur tel ou tel point, ou bien des évêques sont venus le voir, de plus en plus nombreux, pour lui dire « faites-moi un texte sur tel ou tel sujet pour que je puisse intervenir au concile ». Donc il y a aussi une mise au service des évêques, ou au contraire de suggestions aux évêques d'un certain nombre d'idées pour faire passer les siennes.
De nombreuses thèses du dominicain ont ainsi trouvé une place dans le corpus du concile.
Il a été vraiment l'homme de cette construction, pas à pas, des textes. Et à la fin de ses mémoires, de son journal du concile, il fait une sorte de liste des textes qui lui sont plus directement liés. C'est quand même assez impressionnant. Je pense qu'il est celui des théologiens qui a le plus imprimé sa marque directement sur les textes du concile.
L'activité de recherche du père Congar ne s'est pas arrêtée en 1965 à la fin du concile. Le théologien a cependant orienté ses études dans le domaine particulier de la pneumatologie, qui concerne la connaissance de l'Esprit-Saint.
Il a dit assez souvent auparavant que dans sa propre théologie et dans l'œuvre de Vatican II, ce qui manquait un peu, c'était la pneumatologie, c'était le rôle du Saint-Esprit. Et il a beaucoup publié encore après Vatican II, mais les livres les plus importants tournent autour du rôle du Saint-Esprit dans son lien à l'Église. C'est dans ce sens-là que sa théologie, sa pensée s'est développée.